pour la lecture de la parole de Dieu en Matthieu 4, les versets 12 à 24. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérit. Je vous invite à vous asseoir. Est-ce que vous vous souvenez seulement comment l'année 2020 a commencé ? On a presque oublié, tellement ce n'est plus d'actualité, n'est-ce pas ? Pourtant, c'était le début d'une nouvelle année, d'une nouvelle décennie même, avec, comme souvent, les résolutions ambitieuses qui vont bien. Sur la décennie, quelles étaient nos ambitions pour nous-mêmes et pour d'autres? Qu'allions-nous donc vivre et accomplir au cours de cette période? Au final, les 6 premiers mois de 2020 nous ont mis à terre et les 2 mois d'été nous ont fait passer à autre chose. L'un de l'autre, il se peut que nous ayons perdu le fil. On pourrait remettre le pied à l'étrier aussi sec avec la rentrée. Mais j'aimerais plutôt vous proposer d'accueillir l'opportunité qui nous est ainsi faite de revoir nos ambitions. Se peut-il que de temps en temps nous ayons besoin d'une année aussi déstabilisante que celle-ci pour mieux retrouver l'ambition qui devrait être toujours la nôtre si nous portons le beau nom de chrétien. Après tout, à moins d'une impulsion, le coureur a tendance à ralentir sa foulée avec le temps. À moins d'une impulsion, le parent a tendance à délaisser son beau projet parental. À moins d'une impulsion, la performance d'un professionnel a tendance à décliner. On a tous besoin d'une impulsion pour réaffirmer et peut-être même rehausser nos ambitions. Et je compte bien que le passage d'aujourd'hui nous permette de revoir nos ambitions chrétiennes en cours de route. Voilà le portrait qui s'en dégage. Un Christ qui va s'enterrer en Galilée, là où on n'attendait pas le Christ, pour commencer à y rassembler le peuple élu. Je crois que c'est une très belle ambition que de s'attacher à toutes sortes de gens dans un lieu donné. Et je crois que ce genre d'ambition ne court pas les rues. Quel grand homme voudrait s'y mettre aujourd'hui? On va trouver des grands hommes qui se donnent comme ambition d'envoyer des vols habités dans l'espace ou de décrocher la Lune à nouveau. Mais lequel se donne comme ambition de panser des blessures, ici et là, sans paternalisme, sans intention cachée? Lequel se donne comme ambition d'entraîner avec lui une foule de petits gens, des gens comme vous et moi, pour qu'ils investissent leur quartier pour le meilleur? La rentrée est là et nous pourrions repartir dans toutes sortes de directions. C'est le bon moment pour nous pencher sur Matthieu 4, nous laisser interpeller par l'ambition du Christ et recevoir de lui une impulsion. Allons-nous revoir nos ambitions à la lumière de celle du Christ présentée ici? Allons-nous nous donner comme résolution de suivre la voie qu'il nous ouvre. 3 points ce matin. une ambition territoriale, une ambition qui trouble les cœurs, une ambition transmissible. Territoriale, troublante, transmissible. Premier point, une ambition territoriale à partir des versets 12 à 16. Au chapitre 3 et 4, Jésus avait été sur les terres où Jean-Baptiste opérait. Mais au verset 12, il reprend la route vers le nord, vers la Galilée. Il ne restera toutefois pas à Nazareth, sa patrie, dans laquelle il n'était pas reçu comme prophète. Non, le voilà qui s'établit finalement à Capernaum, encore un peu plus haut, au bord du lac de Galilée, comme nous le dit le verset 13. Sauf que le verset 13 ne s'arrête pas là. Il précise encore aux confins de Zabulon et Nephtali. Et en précisant cela, l'évangéliste Matthieu puise dans la mémoire ancienne d'Israël. Parce qu'au temps de Jésus, les tribus de Zabulon et de Nephtali n'existent plus et depuis longtemps. Ça fait 800 ans que ce territoire est colonisé par des populations étrangères, auxquelles se sont ensuite mêlés des Israélites, revenus dans le désordre des provinces assyriennes. Galilée des païens, l'appellation est ténébreuse, comme il convient. Au 1er siècle, en dépit de l'effort de judaïsation, c'est un territoire à peine juif et sans aucune prétention religieuse ou intellectuelle. Il n'y avait rien qui parlait pour la Galilée, ou alors son utilité stratégique. C'était un territoire de commerce par lequel passait la route de la mer entre l'Égypte et Damas. Pourquoi le Christ irait-il s'installer là? Car c'est bien du Christ qu'il s'agit, rien de moins. Au chapitre 3, il a reçu l'onction de la part du dernier prophète, Jean-Baptiste. Il a été déclaré fils de Dieu, vice-roi, loyal, bien-aimé. Et au chapitre 4, il vient de sortir victorieux d'une confrontation avec le diable. Et il n'a rien de mieux à faire que d'investir la Galilée. Il est l'espoir d'Israël, et le voilà qui va s'enterrer là-bas. À ce stade de son ministère, le Christ aurait presque pu faire oublier qu'il était nazaréen. Mais là, il remet une couche. Quel grand espoir en politique va investir un territoire qui ne peut rien pour lui? En investissant la Galilée, Jésus ne va certainement pas se faire un nom. Dans quelques années, on allait évacuer ses prétentions avec ces mots-là. Est-ce qu'un prophète vient de la Galilée? Alors à quoi bon investir la Galilée? Pour évoquer un recommencement, Jean-Baptiste, lui, avait choisi d'emmener des Juifs de l'autre côté du Jourdain, à l'est. C'était par là, en effet, que l'entrée dans la terre promise s'était faite, 1400 ans plus tôt. Jean-Baptiste avait ainsi forcé des Juifs à sortir du pays promis pour mieux les interroger sur la réalité de leur retour au pays. Quand bien même ils y habitaient déjà, depuis quelques siècles, se pouvait-il qu'il ne soit pas encore entré au pays. Jésus, lui, va conduire son ministère sur le territoire de Nephtali, comme ça nous est dit et répété dans le passage. Quel est le symbole cette fois-ci? Eh bien, c'est là qu'avait eu lieu le tout premier de la série des exils qui avait frappé le peuple de Dieu. Un épisode peu connu. Écoutez en 2 Rois 15 le récit de ce tout premier petit exil en 733 avant notre ère. Du temps de Pekach, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth-Maaka, Janoach, Kedesh, Hatsor, Galad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Le Christ revient donc à la première blessure de l'exil. Il a bien l'intention de régler le trouble de cet exil, et il va faire revenir en premier ceux qui étaient partis en premier. Logiquement, c'est en Galilée qu'il va commencer à rassembler à lui ce qu'il reste du peuple élu. C'est là qu'il va planter sa bannière et proclamer le retour d'exil. Il n'y aura pas de retour de population pour autant, car il s'agit bien plutôt de faire en sorte que le peuple retourne spirituellement à son Dieu. On peut comprendre la logique qui anime le Christ, mais quand même, rester 3 ans dans l'ombre de la Galilée, n'est-ce pas une perte de temps pour celui qui est la lumière du monde? Et si on en est là dans nos têtes, je crois qu'on doit s'arrêter et jeter un autre regard sur le Christ. Il a été appelé Nazaréen, comme nous l'avait dit Matthieu au chapitre 2, ce qui n'était pas glorieux. Mais figurez-vous que ce genre de petitesse est sa qualification et sa gloire. Comme nous l'avons entendu au psaume 72, « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. » Alors, est-ce que vous voulez bien que l'attention que nous portons ce matin à la ténébreuse Galilée serve à rehausser notre regard sur le Christ? Le Christ n'est pas trop précieux pour se frotter aux marges. Il n'est pas trop pressé pour donner 3 années de sa vie à des populations périphériques. Il a pris le temps qu'il fallait pour faire revenir à Dieu des gens qui étaient plus loin que d'autres, humainement parlant, spirituellement. Quelle très belle ambition que celle du Christ! Quelle merveille que le Christ soit appelé Nazaréen! Je vous relis le verset 16. « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » On doit tous s'en féliciter. Mais aujourd'hui, certains d'entre nous seront peut-être plus directement touchés que d'autres par ce genre d'ambition, notamment parce que vous revenez de loin. Et voilà que le Christ viendrait vous poursuivre jusque dans votre Galilée. Est-ce que la lumière pourrait se lever sur vous aussi aujourd'hui? Écoutez comment d'avance le prophète Ésaïe décrivait ce que Dieu ferait en Galilée quand elle serait visitée par la lumière. « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, tu le brises. » Est-ce que vous pourriez retourner à Dieu avec joie aujourd'hui? Remarquez que ce n'est pas parce que le retour se fait à un niveau spirituel que notre Seigneur s'affranchit des données territoriales. Et je crois que notre milieu protestant évangélique français a besoin d'être interpellé par cela. Car on a abandonné un peu trop vite à d'autres les problématiques territoriales et paroissiales. Méditons donc sur l'attachement que le Christ manifeste ici à une logique territoriale, une logique symbolique, un temps long. Parce que, disons-le, pour beaucoup d'entre nous, ça paraît futile de chercher dans l'histoire ancienne comment aborder les troubles d'aujourd'hui. Et ça paraît futile de chercher dans une trame collective comment aborder des troubles individuels. Et pourtant, notre Seigneur semble s'intéresser aux blessures anciennes de tout un territoire. Et il s'intéresse aux ténèbres que les Galiléens partageaient tous, même confusément. J'imagine que les uns et les autres, venus de tous horizons, ne pensaient pas grand-chose du drame qui avait frappé ce territoire 800 ans plus tôt. Il n'y a personne qui songeait à décrire la Galilée comme territoire de Nephtali. Les gens étaient passés à autre chose, par la force des choses. Or, c'est le préambule que Matthieu choisit de donner au ministère galiléen de Jésus. Question pour nous, est-ce que nous connaissons les blessures que porte une ville comme Paris? Est-ce que nous discernons les ténèbres qui recouvrent ce territoire particulier? Dès lors qu'on est conduit à discuter avec des membres de ce petit peuple parisien, assis dans les ténèbres, pour parler comme le verset 16, on sera frappé par les solitudes individuelles, les méfiances individuelles, les drames individuels, certes. Mais j'espère que ces quelques versets en Matthieu 4 nous sensibiliseront aussi à l'importance des réalités collectives et historiques qui façonnent les mentalités et les pratiques de populations entières, même des siècles plus tard. Si les pierres de notre ville parlaient, que diraient-elles? Les rues et les ruelles d'une ville comme Paris ont vu beaucoup de sang couler et beaucoup de larmes couler pendant des siècles. On le sait un peu, mais qu'est-ce que cela nous fait? Est-ce que cela ne nous fait rien? Auquel cas, est-ce qu'il n'y a pas des aspects malheureusement laissés pour compte dans le cadre de notre prédication de la bonne nouvelle du royaume des cieux? J'aime à croire que les chrétiens et les chrétiennes parmi nous ont à cœur de relever les Parisiens qui les entourent. Mais est-ce que nous pensons jamais à présenter la lumière qu'est le Christ par rapport aux ténèbres qui pèsent sur ses habitants? Et pourtant, hors contexte de ténèbres, ses habitants n'ont que faire de cette lumière, nous diront-ils. On peut et on doit prier pour un réveil à Paris et dans nos villes, c'est-à-dire pour une illumination du plus grand nombre par la lumière du Christ. Mais humainement parlant, comment croyons-nous que les Parisiens retourneront au Seigneur si les gens comme nous n'allons pas les chercher à tous les niveaux où ça fait mal, même là où ils ne le savent pas? Et est-ce qu'on a vraiment le choix d'ailleurs? Par exemple, au niveau national, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut vraiment reprendre tel quel le récit national sur la Révolution française et simplement prêcher à côté la lumière du Christ, tout simplement? Et après, on s'étonnerait que notre prédication du royaume des cieux n'accroche pas et passe complètement au-dessus de nos concitoyens. Peut-on vraiment ne pas dire tout ce que la Révolution française a de ténébreux? Ne pas dire combien c'est un projet sans Dieu qui, jusqu'à ce jour, exerce une emprise sur les esprits? C'est un exemple, on pourrait les multiplier. Dans la foulée, on pourrait effectivement creuser des dossiers nationaux, franciliens, parisiens, jusqu'au niveau le plus local, celui où opèrent nos églises parisiennes, que l'on souhaite toujours plus locales, toujours plus enracinées. Notre Seigneur est du genre à relever des blessures, pointer des ténèbres. À notre tour, désignons blessures et ténèbres et confions-les à sa lumière. Auquel cas, l'illusion que Paris est la ville-lumière ne résistera pas longtemps à notre examen. Et je suis persuadé qu'à cet exercice, nous pouvons aller loin. Parce que si les chrétiens parmi nous connaissent la profondeur du péché et la grandeur de la grâce, ils seront les mieux équipés pour analyser, pour interpeller, pour parler, pour rediriger avec ambition. Nos voisins de palier et de bureau n'attendent que cela, une parole profonde de notre part qui les arrête, qui les fait réfléchir, qui les redirige. Jusque-là, on s'est concentré sur l'ambition historique et collective que le Christ manifeste aux versets 12 et 16. Il n'en reste certainement pas là. En définitive, il vient bien sûr interpeller des individus. Et c'est notre deuxième point, plus brièvement. Une ambition troublante avec le verset 17. Une ambition troublante. En un premier sens, l'ambition de Jésus est troublante car elle est dangereuse pour lui. Au verset 12, il est question d'un retrait. Et on pourrait croire que Jésus se protège, au sens où il s'éloigne de la zone où avait opéré Jean-Baptiste et où sévissait Hérode Antipas. Mais non, la Galilée, où il va, relève elle aussi de la juridiction d'Hérode. En se déplaçant, Jésus ne change donc pas de tétrarque. La menace est là, et ce qui est plus troublant encore, par rapport à Jean-Baptiste, il ne change pas de message. Au chapitre 3, Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et au chapitre 4, verset 17, Jésus dit la même chose « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Mais en plus d'être troublante parce que dangereuse pour lui-même, l'ambition de Jésus est troublante parce qu'elle vient jeter le trouble dans le cœur des individus qui l'interpellent. Et ça va nous surprendre quand on y réfléchit. Quoi, Jésus est allé chercher des gens enténébrés, éloignés, détachés, fragilisés comme ces Galiléens, et au lieu de les prendre avec des pincettes, il leur met la barre aussi haut qu'avec les bons juifs qui se frottaient à Jean-Baptiste. Jésus ne fait pas de concession sur la repentance, la victimisation ne va pas marcher avec lui. Il appelle des pécheurs non des victimes, mais bien des pécheurs. Et il les appelle à faire le bilan de leur vie et à prendre un virage à 300 degrés, changer d'attitude. Certains parmi nous sont là ce matin qui sont en marge de l'Église de Jésus-Christ. Peut-être avez-vous l'impression de faire preuve de bonne volonté au point que notre Dieu devrait vous montrer des égards. Peut-être vous comptez-vous parmi les blessés de la vie, auquel cas notre Dieu a plutôt intérêt à vous ménager ce matin. Et voilà que à vous, comme à tous les autres, Jésus assène « Repentez-vous ». Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop que l'on se mêle de vos attitudes de cœur. Mais si vous vous connaissez un peu, vous saurez que Jésus a finalement raison d'appeler à un changement intérieur. Notre cœur n'est pas beau à voir. N'appréciez-vous pas que le Christ vous respecte assez pour vous interpeller directement en la matière? Et ce qui est rassurant pour vous, c'est que les chrétiens sont traités à la même enseigne, évidemment. Repentez-vous. Après Jean-Baptiste, cette réitération dans la bouche de Jésus indique en effet que ce message doit être entendu à nouveau, encore et toujours et encore ce matin. Alors entendons tous ce message et repentons-nous. Repentons-nous de chercher gloire et lumière ailleurs que dans le Christ. Repentons-nous d'être aussi peu centrés sur le Dieu à qui nous devons tout. Repentons-nous de nos poursuites idolâtres et vaines, poursuites assidues de reconnaissance sociale, poursuites assidues de réussite pour nos enfants, poursuites assidues de sécurité financière et de patrimoine. De la réitération dans la bouche de Jésus, au verset 17 du même message, on conclura aussi que les fondamentaux de la foi chrétienne incluent un appel à la repentance. Le volet repentance dans notre prédication n'est pas le plus populaire, vous le savez. Notre passage ne permet pas le doute sur ce point. Au verset 12, Jean-Baptiste en avait déjà fait les frais. Est-ce que vous et moi, nous sommes prêts à rejoindre Jésus dans cette ambition-là, quitte à s'attirer le trouble? Est-ce que nous voulons bien dire les choses en face à nos voisins de palier et nos voisins de bureau? Une ambition territoriale, une ambition troublante, troisième point, une ambition transmissible, à partir des versets 18 à 24. L'ambition de Jésus est non seulement profonde et forte, mais encore partagée. Car Jésus n'a pas l'intention d'être tout seul à relever la Galilée. Comme on le voit ici, il appelle formellement des disciples, des Galiléens, à le suivre dans sa mission. À la lecture des autres évangiles, on comprend qu'à ce stade, ces quatre-là avaient déjà rencontré, déjà reconnu Jésus, quelques semaines plus tôt. Sauf que là, ils étaient retournés à leur affaire. Ces quatre types avaient aussi autre chose à faire. Mais Jésus les a repris sous son aile. Le Christ n'est allé chercher ni des scribes, ni des judéens pour pêcher les Galiléens. Il a pris sur place ceux qui pourraient rayonner pour gagner la Galilée à la lumière. Et si Jésus appelle des gens qui étaient allés le matin au travail, comme tous les jours, c'est parce qu'il voulait que son royaume fasse participer des petites gens comme vous et moi. Quelques versets plus loin, au chapitre 5, à ses quatre disciples et à beaucoup d'autres disciples, Jésus allait dire « C'est vous qui êtes la lumière du monde ». On a du mal à le croire. Pierre, André, Jacques et Jean sont des pêcheurs d'eau douce. Il y en a deux qui jettent les filets, il y en a deux qui réparent les filets. Et c'est à cette équipe-là que Jésus s'attache. Ambitieux. Ambitieux. Pour celui qui cherche à implanter une nouvelle église, l'ambition de Jésus est encourageante. Il y a de la place pour toutes sortes de personnes dans une église de départ, dans une équipe de départ. Pour celui ou celle qui porte le nom de chrétien, l'ambition de Jésus est stimulante, il me semble. Si je veux bien, tous les jours, je peux faire une sortie en mer avec le Christ et pêcher à ses côtés. Et pour celui ou celle qui ne porte pas encore le nom de chrétien, l'ambition de Jésus est provocante, je ne vous le cache pas. Si vous avez bien suivi, Jésus se propose de vous pêcher tôt ou tard. Et cette inclusion au royaume par le moyen de la pêche pourrait bien vous faire peur. Qui a envie d'être attrapé comme un poisson? Qui a envie de se voir poursuivi par un pêcheur de très près? Mais voyez les versets 23 et 24 qui montrent l'effet de la bonne nouvelle du royaume. Et interrogez-vous, qui ne voudrait être un de ces poissons bienheureux qui entrent dans le filet du Christ? Écoutez à nouveau ces versets. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Qui ne voudrait être un de ces poissons bienheureux qui entrent dans le filet du Christ? Il nous faut conclure. L'ambition que Jésus manifeste dans ce passage est territoriale, troublante et transmissible. Mais alors, est-ce que vous êtes prêts à revoir vos ambitions à la lumière de la sienne? Pêcheurs d'hommes et de femmes, qui sait ce pourrait être vous à partir de 2020? comme à nouveau. Et si vous pouviez l'être, pourquoi ne le voudriez-vous pas ? Tout à l'heure, j'ai parlé de la dangerosité de cette mission. Jean-Baptiste serait finalement décapité. Jésus serait crucifié. Que va-t-il arriver aux chrétiens parmi nous ? Clairement, cette mission, si vous l'acceptez, est une pêche en eau vive. Au moins, on ne s'ennuiera pas. Et quand nous tremblerons devant la tâche qui nous est confiée, il nous faudra peut-être méditer à nouveau le portrait bienheureux qui se dégage de ces versets 23 et 24. Il y a du monde, il y a de la joie. Et ça va chercher très loin, puisque même la Syrie voisine de la Galilée en est bouleversée. En notre temps, un temps qui est certes plus ordinaire que le temps ici décrit, mais un temps pas moins bouleversant, nous ne voudrions pas vivre quelque chose de cette illumination ? Imaginez que l'Île-de-France soit plongée dans l'obscurité par une éclipse lunaire. Et à l'invitation du Christ, vous pouvez bouger la lune, un mètre à la fois, un individu à la fois. Est-ce que vous ne le feriez pas ? C'est la bonne nouvelle du royaume que nous avons à proclamer et à appliquer aux personnes auprès desquelles le Christ nous a placés. Voir de vos yeux des gens passer des ténèbres à sa glorieuse lumière. Mais quelle plus grande ambition voudriez-vous ? Dans un instant, nous nous lèverons pour répondre par un cantique à ce que nous avons entendu. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Père Céleste, tu appelles tous les chrétiens parmi nous et sur toute la terre à suivre la voie ambitieuse que le Christ nous a laissée. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Alors nous savons bien que livrés à nous-mêmes, nos ambitions n'ont rien à voir avec son ambition. Nous n'avons pas vraiment envie de passer notre temps à écouter et interpeller nos voisins, à nous mettre en risque. Nous préférons notre confort matériel et nos routines ecclésiales à leur illumination, à leur salut. Nous nous repentons et nous te demandons de rediriger nos vies afin qu'elles soient ouvertes aux Parisiens et aux Franciliens, comme ton Fils s'est donné autrefois aux Galiléens. Fais-nous participer comme nous le pouvons à ton œuvre, participer à ce que ta lumière se lève sur nos villes en cette année troublée, afin que des petits peuples assis dans les ténèbres voient cette lumière. Fais que de nombreux individus, dans nos immeubles, sur nos lieux de travail, changent d'attitude à ton égard et changent de vie pour le meilleur. Et permets-nous alors de connaître avec eux une grande joie, comme au jour de la moisson, à chaque fois que ton Église s'agrandit ici-bas. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ, qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, comme il est écrit en Matthieu 28. Amen.